Donc je suis Marion Serre, je suis responsable adjointe du service des échanges et des documents pour les bibliothèques de la ville de Paris, qui est un service central, qui est entre autres en charge la bibliothèque numérique. Et Jao, à mes côtés, est gestionnaire de la bibliothèque numérique. Je suis arrivée à la ville de Paris au mois de juillet, donc je suis fraîche sur le poste. On a changé, on a un nouveau marché depuis le mois de juillet, et c'est Jao qui l'a entièrement construit avec les collègues. Mais enfin, c'est lui et c'est lui qui le met en œuvre. Donc je vais faire la présentation, et pour toutes les questions, je suis sûre que Jao aura les réponses. Je vais me consacrer dans la présentation sur ce marché de livres numériques. Je vais évoquer rapidement les autres ressources qu'on peut avoir, mais comme on a un marché qui est tout frais, je trouvais intéressant d'insister plutôt sur le CCTP, les critères. Enfin, voilà, vous présenter le CCTP tel qu'on l'a fait de manière un peu précise sur les livres numériques, plutôt que de faire une présentation qui balaye un peu rapidement les autres ressources numériques. J'ai un peu détaillé au début de la présentation un peu notre fonctionnement, mais j'imagine que les PowerPoints seront diffusés, donc je peux passer un peu vite. Donc en gros, il y a tout un dispositif de numérisation, etc. La bibliothèque numérique, les livres numériques existent depuis 2015. Auparavant, la ville avait déployé des liseuses dans les bibliothèques chargées avec des livres libres de droit. Donc finalement, la bibliothèque numérique est assez récente. Et puis nous avons des ressources numériques que je ne détaillerai pas ici, juste pour information. On passe par un gestionnaire d'abonnement pour rebondir sur une question qu'a posée une collègue ce matin. Ce que je trouve extrêmement pratique en termes de légèreté administrative. Par contre, ce que je trouve un peu plus compliqué, parce qu'on est loin des prestataires, et que là, par exemple, j'ai reçu un devis qui ne me convient pas, et que du coup, j'ai juste le gestionnaire d'abonnement pour dire ça ne me va pas, et je ne le trouve pas hyper pugnace à mon goût, puisqu'en gros, la réponse, ça a été un mail de 3 lignes, oui, ils ont réajusté leur tarif, super, mais c'est 1 500 € de plus, ça ne me va pas. Donc, si j'étais dans une collectivité plus petite, je pense que le gestionnaire d'abonnement, c'est quand même pratique quand on n'est pas hyper rompu au marché et que c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on perd un lien direct qui me semble quand même assez précieux pour négocier. J'en dirai pas plus sur les ressources numériques. À la ville de Paris, donc on a un service central qui entre autres gère un service numérique, qui travaille en concertation avec un service de veille, donc des bibliothécaires de toute la du réseau, de toute la ville, du réseau qui font une veille dans des collectifs, et c'est là-dessus qu'on s'appuie in fine pour nos acquisitions de livres numériques, et évidemment les bibliothèques. Pour vous donner un ordre de grandeur de notre fonds, donc on a commencé en 2015 avec 8 000 exemplaires. Vous voyez les chiffres. 2020, évidemment, il y a eu un pic, on a eu des crédits supplémentaires, 11 400 exemplaires, ce qui fait un total catalogue aujourd'hui de 20 500 titres, puisque au-delà du nombre d'exemplaires qu'on achète, il y a évidemment des titres qu'on achète en réassort une fois que les jetons sont épuisés, et puis des titres qui sont des nouveautés au sens strict. Depuis 2019, on a des livres audio, on a 1487 exemplaires. C'est quelque chose qu'on souhaite développer. Je vous en dirai un mot, du coup, dans la manière dont on a construit le marché. On est, pour la bibliothèque numérique au sens strict, à une moyenne de 5500 usagers par mois et un nombre de prêts moyens de 14 000. Donc, ça fait une moyenne. Je vous laisse deviner ce qui est la ligne rouge. J'ai pas précisé les années, en fait, j'ai pas réussi à l'intégrer dans la légende. Mais en gros, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu évidemment un pic en 2020, mais que chaque année, on a à peu près les mêmes pics et les mêmes baisses, mais que d'année en année, le service progresse. Voilà, et que j'ai pas rajouté le mois d'octobre, mais on flirte avec l'année 2020. Idem pour le nombre mensuel d'usagers. Les lignes sont parallèles, mais elles progressent d'année en année. Pour vous donner du coup un ordre de grandeur qui évidemment définit les modalités d'acquisition des livres numériques, on a un budget de 100 000 euros, 90 000 pour les livres numériques, 100 000 pour les livres audio, donc avec un 10 000 pour les livres audio, pardon. Rêvons un peu. Donc évidemment, avec des montants, tous mes lapsus sont révélateurs. Hein, donc évidemment, avec des montants comme ça, il était nécessaire de passer à un marché. Donc là, je vais vous détailler le marché d'acquisition qu'on a passé cette année. Je vais évidemment vous présenter le marché que j'ai découvert, puisqu'il était passé et notifié quand je suis arrivée à la ville de Paris. J'ai aussi appelé notre libraire qui a été attributaire du marché pour lui demander a posteriori les remarques qu'elle pouvait faire sur notre marché et de manière générale, elle, comme libraire répondante, qu'est-ce qu'elle voit de bien ou de compliqué. Je me disais qu'avoir le point de vue d'un libraire sur nos marchés et pas qu'un point de vue de bibliothécaire pouvait être intéressant, effectivement, sur un des critères que je vous présenterai tout à l'heure, que moi, j'aurais pour ma part fait sauter. Elle le trouvait intéressant, je vous raconte. Donc, un marché, puisqu'on est à 100 000 euros, on a fait deux lots. Donc, un lot de fourniture de livres numériques et un lot pour les livres audio numériques. Les échanges que j'ai eus avec notre libraire ont insisté quand même sur la nécessité de faire un lot spécifique pour le numérique. Elle a vu passer des marchés qui mélangeaient livres imprimés et livres numériques, ce qui est possible puisque certains libraires le font. Évidemment, ça restreint beaucoup les réponses, les chances pour certains libraires de répondre, et en particulier pour les quelques libraires qui sont vraiment spécialisés sur les livres numériques. D'où l'importance pour elles de faire un lot vraiment spécifique sur l'acquisition de livres numériques. On a mis un montant minimum de 80 000 euros pour les livres numériques et 10 000 pour les livres audio et pas de maximum. J'ai entendu que c'était plus obligatoire, les minima. Oui. D'accord. Mais on a quand même le droit de le faire. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours trouvé, pour avoir travaillé dans des collectivités où on pouvait se retrouver avec des budgets sabrés, j'ai toujours eu tendance à mettre des minima dans les marchés très hauts pour sécuriser mes budgets quand il y avait des coupes en cours d'année, de dire, ah bah oui, on aurait bien coupé, mais on ne peut pas puisqu'on a un minimum des marchés à honorer. Après, chacun sa stratégie selon sa collectivité. L'inconvénient étant que si on veut faire des glissements de budget d'une ligne à l'autre, si on ne voulait plus acheter de livres numériques pour faire un virement de crédit quelque part, du coup, on ne pourrait pas puisqu'on est engagé pour 80 000 euros minimum avec notre prestataire. Je vous ai détaillé ici le contenu de la prestation, donc fourniture de livres numériques et audio numériques, mis à disposition des bibliothèques par les éditeurs et distributeurs. Donc, on a évidemment restreint au système PNB. Et donc, on a insisté à d'autres endroits du marché sur le fait de pouvoir disposer de l'intégralité de l'offre PNB. Et on exclut l'offre hors PNB du marché.
C'est juste Je fais juste un aparté par rapport à ça. D'où ce qu'on a dit ce matin, là, il faut bien écrire son marché pour être sûr d'éviter les erreurs. Alors on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on met l'offre hors PNB. C'est qu'on s'est retrouvé avec des candidats qui proposaient dans leur catalogue les deux et qui le mélangeaient. Donc quand vous n'achetez que du PNB, c'est un peu pénible d'arriver à trouver votre offre. Donc nous, on avait précisé, voilà, l'offre hors PNB exclue, on veut un site dédié. Voilà, c'est juste pour ça.
D'autant plus que ça a été une alerte de la libraire qui a répondu, qui a remporté le marché avec nous, qui nous a indiqué qu'il lui arrivait parfois de perdre des marchés sur le critère du nombre de références. Or, quand un libraire a l'intégralité de l'offre PNB, il n'y a pas de raison qu'il perde un marché là-dessus, ce qui veut bien dire qu'il y a des libraires ou des fournisseurs qui jouent sur cette ambiguïté en gonflant l'offre d'une offre hors prêt numérique en bibliothèque. Voilà. Donc il me semble que c'est une alerte. Quand on dit qu'il faut sortir de l'implicite, ça évite aussi de se retrouver avec des faux critères ou quelque chose qui masque la réalité artificiellement. Je vous ai détaillé ici quelques modalités qui m'ont eu l'air importantes dans notre dans notre marché. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de faire des lots séparés imprimés numériques, d'être vraiment sur un marché de livres numériques. Nous avions insisté dans notre appel d'offres sur le fait de disposer d'un catalogue électronique et de plusieurs comptes, dont un compte administrateur. Ça a l'air tout bête, mais pour faciliter les choses, il faut vraiment s'assurer de ça. L'intégralité de l'offre PNB, un site web dédié à l'offre PNB, justement pour ne pas avoir nos recherches et notre veille et nos acquisitions noyées par des ouvrages numériques grand public qui ne sont pas dans l'offre PNB. Et on voit à l'usage pour les acquisitions qu'avoir un site vraiment dédié et centralisé sur l'offre pour les bibliothèques facilite la vie. On a évidemment demandé un service de fourniture de notices bibliographiques avec à minima titre auteur-éditeur, interrogea par rebond, des fonctions de recherche avancées, à pouvoir disposer d'un outil de commande, tri, panier pérenne, extraction Excel, traitement par lot, alerte doublon de commande. Pour ce que je vois des acquisitions depuis que je suis à la ville de Paris, c'est vraiment précieux, les alertes de doublon de commande et les paniers pérennes en particulier, pour pouvoir suivre les acquisitions, comme il y a quand même beaucoup de travail de réassort ou plusieurs acquéreurs qui travaillent, on a vraiment besoin de ces outils-là pour se faciliter la vie. Après, on peut imaginer que si vous êtes dans une collectivité plus petite et qu'il n'y a qu'un seul acquéreur qui suit tous deux A à Z, ce n'est pas important, mais dès lors que vous êtes un peu dans un réseau avec plusieurs acteurs, c'est le genre d'outil important. On a demandé une alerte 15 jours avant l'entrée d'un nouvel éditeur dans PNB, puisque nous, on souhaite vraiment avoir une très, très grosse réactivité sur nos acquisitions numériques. Une information et une mise à jour quand un livre sort en poche. Et on a également inclus dans notre marché une mission de conseil et d'assistance. Voilà, il se trouve que notre prestataire... je le raconterai au moment de la mise en œuvre. Je vais vous détailler ici les critères qui ont servi. Alors moi, c'est toujours ce qui me pose beaucoup de problèmes quand je fais un marché. Du coup, c'est ce que j'ai détaillé dans la présentation. Donc, des critères. Donc, il y a le critère 1, qualité technique de la plateforme en ligne. Critère 2, pertinence de l'organisation mise en place. Et critère 3, le prix. Le critère 1 sur la qualité technique de la plateforme en ligne avait deux sous-critères, les qualités des fonctionnalités de recherche et les qualités des fonctionnalités du module commande. On a évidemment demandé à disposer de comptes tests pour pouvoir tester ça au moment du marché. Donc je vous ai détaillé entre parenthèses les détails critères qualitatifs sur les modalités de réalisation des requêtes, facilité de recherche, exploitation des résultats. Et dans le deuxième sous-critère, tout ce qui concerne la modalité de constitution des paniers et de leur modification, pertinence des suivis. Pour le critère 2, ça concerne la pertinence de l'organisation mise en place pour la bonne exécution du marché. Et donc là, on avait mis un sous-critère avec un cas pratique pour pouvoir juger de la qualité de la réponse, qui était on passe une commande de 450 titres, 100 d'entre eux sont acquis en double exemplaire, comment traitez-vous notre demande? Voilà, un cas très concret, parce que je crois que les commandes massives posaient problème dans le précédent marché.
Il y a certains prestataires qui ont du mal à traiter les commandes massives, surtout quand il y a des multiples exemplaires. Donc on voulait éviter ça, parce que nous, c'est souvent le cas. Il y a des petites techniques informatiques à avoir pour le libraire, mais il y en a certains qui n'arrivent pas à les maîtriser. Donc souvent, on se retrouve avec les commandes annulées. Voilà. Donc nous, on a mis ça en place. C'était juste pour être sûr qu'ils pourraient gérer quand on fait une commande de... Parce que ça nous arrive fréquemment, des commandes de 1000 titres d'un coup. Ben, il faut qu'ils puissent y répondre.
Et l'autre sous-critère, c'était les propositions pour optimiser le service proposé, donc l'enrichissement des notices, la présentation du catalogue, l'assistance technique. Et du coup, les prestataires ont pu, les libraires ont pu valoriser ici quand il fournissait un vrai travail d'aide à la veille, à la sélection, etc., dans leur travail. Pour noter, donc, je vous ai mis les pourcentages dans le barème, c'est 10 très pertinents, 7 pertinents, 4 partiellement pertinents, 1 peu pertinent et 0 en cas de non-réponse. Ce qui permet après tout ça pondéré avec les pourcentages. Classement. Le critère 3 à 10% est celui du prix. Avec l'établissement d'un BPU, et je crois qu'il y avait une vingtaine de titres en test. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais échangé avec les libraires qui ont obtenu le marché, et moi, typiquement, le critère du prix, j'aurais eu tendance à l'exclure en me disant qu'il n'est pas pertinent. Idem, je me suis toujours battue sur les livres papier pour faire comprendre à nos services des marchés que le critère des prix, on n'allait pas le mettre à 70% quand il y a le prix sur le prix unique du livre, je vais y arriver. Et ben précisément, la libraire avec qui j'ai échangé a dit que pour elle, c'était important qu'il y ait un critère prix, précisément parce qu'il n'était pas pertinent et que ça permettait aux libraires de le prouver. Parce qu'elle dit qu'il y a certains libraires qui gonflent leur catalogue PNB avec des livres numériques belges, suisses, enfin voilà, avec une offre qui, de fait, n'intéresse pas les bibliothèques. Et donc, elle a perdu des marchés parce qu'on lui disait l'offre est moins riche chez vous qu'ailleurs. Sauf que si c'est gonfler une offre de livres numériques, de livres qui ne nous intéressent pas en bibliothèque, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est un critère non pertinent. Avec un BPU, ça permet de remettre tout le monde d'équerre, de remettre tout le monde à égalité sur ces critères-là et de se reconcentrer sur des critères plus techniques et qualitatifs. Voilà, après, on en pense ce qu'on en veut, mais du coup, ça, il me semble que ce retour de libraire aussi était intéressant comme alerte. Et puis, en même temps, 10%, ça laisse quand même de la marge pour vraiment se concentrer sur les autres critères. Dans les attributions, donc on a eu 5 répondants. Le test sur le critère 1, donc pour rappel, la qualité technique de la plateforme, donc recherche et commande, a été fait par l'équipe, à la fois le gestionnaire de la bibliothèque numérique, JAO, et puis les chargés de veille. Donc c'est les collègues qui travaillent dans les collectivités imprimées, mais listes à partir desquelles on fait les acquisitions de livres numériques. Et le test sur le critère 2 a été fait par le bureau des marchés et donc JAO, toujours de la bibliothèque numérique. Donc le critère 2, c'était l'organisation mise en place pour la bonne exécution du marché. Certains répondants étaient à égalité sur le critère 1, et évidemment sur le critère prix, hein, j'en parle même pas. La différence a vraiment été faite sur le critère 2, et en particulier sur le sous-critère pertinence de l'organisation mise en place pour la bonne exécution du marché et sur le cas pratique de la commande massive. Voilà. Donc c'est important de trouver chacun dans votre réalité. Je ne sais pas si la question de la commande massive se pose dans tous les cas, mais en tout cas de trouver un cas pratique qui correspond à nos réalités de travail pour après juger... J'ai vraiment là-dessus, ça peut être sur les paniers de commandes, une commande massive. Enfin voilà, nous, la différence, c'est vraiment jouer là-dessus parce que deux répondants étaient à égalité à l'issue de l'examen des commentaires.
Le sous-critère 2 aussi, il a été prépondérant dans le sens où la librairie qui a remporté le marché avait bien développé, fait un argumentaire. On sent, en gros, ils ont bien travaillé leur truc. Il y avait d'autres libraires qui avaient des choses à montrer, qu'ils auraient pu mettre en avant. Ça a été un peu bâclé. Voilà. Bah, mine de rien, ça coûte. Voilà. Quand vous faites un test, quand vous regardez, bah, voilà. Vous savez qu'en fait, ce libraire, il propose des choses, mais il ne le met pas en avant. Donc, c'est dommage. Voilà. Donc, En fait, moi, je vous encourage, si vous faites des marchés, à travailler ça, mettre un pourcentage de notes, parce que là-dessus, en fait, les gens ne peuvent pas tricher. Nous, c'est l'expérience qu'on a eue, c'est sous critères où, en fait, ils doivent faire un mémoire technique. Alors, ils peuvent baratiner, hein, ça, on n'est pas à l'abri. Mais après, ça a monté le marché. Bah, s'ils mentent ou qu'ils ne peuvent pas y répondre alors qu'ils le promettent, à vous de voir après, éventuellement, ce que vous pouvez faire, des pénalités ou autres, ou dénoncer ce genre de choses.
J'espère qu'Optimum Marché a vraiment enfin, un catalogue très riche et puis vraiment un travail aussi d'accompagnement, d'aide aux acquisitions à la veille qui a été valorisé dans leur mémoire. Et puis du coup, ça a fait la différence sur les critères. Quelques mots sur la mise en œuvre du marché. Donc comme je vous le disais, on fait une commande hebdomadaire à la Bibliothèque de Paris. En alternance, une commande de réassort, donc les livres dont les jetons sont épuisés ou quasi, et une commande de nouveautés. Le choix des titres et la sélection est faite à partir des titres sélectionnés par nos comités de veille. Et on exclut les ouvrages dont la licence de prêt ne permet pas de prêt simultané. On a un accompagnement très précieux du libraire qui propose une aide à la veille. Alors on n'utilise pas beaucoup son aide à la veille et ses sélections parce qu'on a déjà une organisation très structurée et très efficace dans les bibliothèques de la ville de Paris, donc on n'a pas besoin de ça. Par contre, ils nous ont proposé de nous mettre à disposition, de nous inscrire à un service de presse numérique. A permis d'avoir les épreuves de la rentrée littéraire, enfin voilà, aussi pour pouvoir nous profiter de tout ça. Ils ont proposé des formations. On a déjà rencontré, enfin au moment de la mise en œuvre du marché, et puis pour des formations cet automne, après quelques mois de mise en œuvre, pour voir si ils pouvaient éclairer certaines utilisations du module commande, adapter des choses, etc. Il propose un service de précommande, mais ça nous intéresse pas.
Moment.
C'est bien que ça existe. Et puis, effectivement, ils sont très réactifs sur les alertes sur les nouveaux éditeurs, les changements de licence et aussi tout simplement sur la rapidité des commandes. Quand ils reçoivent le bon d'engagement, c'est mis en ligne dans la journée, en fait. Enfin, y a vraiment une réactivité extrêmement précieuse. Et vu que parfois, on a un petit problème sur le circuit du document imprimé, enfin, voilà, on a des petits problèmes de délai. C'est vrai que c'est agréable aussi que sur la bibliothèque numérique, on soit vraiment extrêmement réactif. Le libraire est ouvert du lundi au dimanche ou du
Bien sûr,
mardi au
non, du
dimanche.
lundi au dimanche.
Voilà, quel que soit le jour auquel il reçoit le bon de commande, c'est versé dans la demi-journée qui suit. Donc c'est vraiment agréable.
Chose qu'aussi qu'on avait mis sur le CCTP et qui le respecte, c'est qu'on a mis qu'on pouvait avoir une évolution de leur site suivant nos demandes et la façon dont on travaille. Et on voit que bah, ils le respectent. On les a rencontrés, on leur a les deux, trois petites choses qu'on aimerait avoir, voilà, sachant que ce n'est pas un catalogue que pour nous, puisqu'ils ont d'autres clients, mais du coup, ils le font au cas par cas. Si ça impacte pas les autres, ça suit. Voilà.
Particulier la problématique de la conservation des paniers.
Oui. Oui, ils ont même accepté, et pourtant, ce n'est pas évident, avec le fonds qu'on a de 20 000 titres, d'intégrer ces 20 000 titres dans, comment dire, un panier caché pour éviter les doublons. Voilà. Donc là, je pense que leurs techniciens, ils ont dû nous insulter. Mais ça a pas dû être facile, en fait.
Mais ça, pour le coup, quand on change de fournisseur, pouvoir garder cette antériorité, c'est très précieux pour le suivi des acquisitions. Impeccable. Juste pour information, les questions de valorisation. Donc sur le portail, on valorise les nouveautés du mois et une ou deux sélections thématiques. La Bibliothèque numérique de Paris a également un compte. On a un gros travail, enfin, Jao fait un gros travail d'accompagnement, de tuto, de foire aux questions et de formation. Je crois qu'il est reconnu dans toute la France pour la qualité de ses tutos, et c'est lui, voilà. Il y en a encore plus en interne, parce que là, je vous ai mis une capture d'écran de notre Wikibib interne aux bibliothèques de Paris, avec tous les tutos qui ont été créés, les foires aux questions et les supports de formation, puisque Jao et un autre collègue de la bibliothèque numérique assurent des formations pour les bibliothécaires du réseau sur la bibliothèque numérique et l'utilisation des liseuses, parce qu'évidemment, c'est eux qui peuvent accompagner ces bibliothécaires du réseau, qui peuvent répondre aux questions des usagers au fil de l'eau. Donc le niveau 1, c'est évidemment la prise en main de base. Et le niveau 2, c'est spécial bug. Donc c'est pour les collègues bien, bien aguerris, mais il faut bien une formation
Oui.
complète pour régler les problèmes de DRM.
En général, c'est 60% de problèmes avec Adobe.
Voilà, c'est ça.
30% de problèmes liés à une mauvaise utilisation, et puis le reste, effectivement, ça peut être lié à un bouquin ou des choses comme ça.
Et donc, en tout cas, au-delà des problématiques de marché, la question de la mise en œuvre et du suivi technique derrière, c'est quelque chose à pas du tout négliger, parce que si on a un super catalogue de livres numériques, mais qu'il n'y a personne pour répondre aux usagers qui ne savent pas, ça va pas. C'est pour ça que je l'ai intégré ici. Et donc, on a aussi enfin, le service numérique assure aussi la gestion des tickets incidents. Donc, pareil, on n'a pas voulu que Jao et l'autre collègue deviennent une hotline pour tous les usagers de la bibliothèque numérique de la ville de Paris, parce que là, ça ne pourrait pas. Donc, ça passe encore une fois par les bibliothèques, mais par notre Wikibib interne. Les bibliothécaires, quand ils n'arrivent pas eux-mêmes à répondre à un souci technique, ont la possibilité de déclarer et donc c'est traité par Jao, par l'autre collègue. Je parle moins de l'autre collègue parce qu'il est plus sur les tablettes et sur les ressources numériques, mais évidemment, il y a Jao en son absence. Et donc, ce formulaire permet déjà de désengorger un certain nombre de problématiques et de questions pour mieux identifier le problème. Donc, je vous ai indiqué ici les questions que les collègues en bibliothèque doivent remplir avec l'usager, donc l'environnement informatique, le navigateur, quel logiciel appli de lecture, la nature du problème et la précision du titre de l'e-book, ce qui permet qu'il y ait des tests qui soient faits en interne. Et puis après, la réponse est donnée au bibliothécaire ou à l'usager, au bibliothécaire.
Bibliothécaire, oui.
Voilà.
Après, moi, je me suis rendu compte avec le confinement à quel point les bibliothécaires de notre réseau, on a une soixantaine de bibliothèques, faisaient ce travail. Parce que du coup, ils n'étaient pas là. Donc, tout, en plus, avec l'arrivée de nouveaux usagers qui ne connaissaient pas, tout arrivait aux responsables d'établissement qui ne peuvent pas gérer. Et donc, après, tout m'arrivait. Voilà. Donc, j'étais bien content. Voilà.
Donc là, c'est une gestion enfin, en interne par le Wikibib, donc vraiment les bibliothèques. Et il y a d'autres tickets incidents qui peuvent arriver par Paris J'écoute,
En gros, c'est le service pour les Parisiens. Vous avez n'importe quel problème, vous écrivez, et puis après, ça va à la personne qui est concernée avec le service. Ça
Voilà,
va
donc
de j'ai une crotte
renseigner.
de chien en bas de chez moi à bah, j'ai plus Internet chez moi, ou pourquoi est-ce que les éboueurs passent à 5 heures du matin. Voilà. Donc, quand il y a des questions sur la bibliothèque numérique, ça m'arrive en fait.
Voilà, donc la gestion des tickets incidents arrive par ces deux biais-là. Voilà, et je vous ai mis les liens et notre compte Twitter. Merci, et je crois que je suis dans les temps. Voilà.
Moi, ce que je voulais savoir, Monsieur Jao, c'est si vous donnez des formations aussi pour les bibliothécaires des autres communes, pour les
Non.
résolutions de problèmes, là, le 1, le
Non,
2.
après, c'est quelque chose qui peut être étudié. Mais le souci, c'est que si je l'ai fait, il faut que je me déplace. Et je sais que la ville de Paris ne me paiera pas le déplacement.
Non, mais ou sinon en ligne, ou je sais
Voilà.
pas, peut-être qu'il y a
Mais
des
voilà.
choses.
Mais c'est quelque chose qui peut être envisagé dans le cadre de Carrel aussi.
Oui, parce que moi, j'allais vous écrire pour vous demander l'autorisation d'utiliser vos tutos,
Allez-y. Je dis à tout le monde,
etc.
c'est fait. En plus, c'est filmé, donc ça va être mis sur.
On
Allez-y.
peut le
C'est.
faire sans vous demander, alors, du coup.
Oui.
D'accord. Bon, bah, et puis, des
Enregistré, pardon.
formations. On verra les supports.
Voilà. Mais si les gens veulent utiliser les tutos, la fac, tout ça, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Allez-y.
OK. Bon, et puis, pour les
Et s'il y en a qui
formations.
ont besoin, parce qu'ils ont, vous avez besoin de changer les captures d'écran, parce vous n'avez pas le même site que
Oui.
nous. Donc, vous m'envoyez un mail, c'est mon prénom.monnom, jao.maciel@paris.fr. Je vous envoie les documents Word, comme ça vous le convertissez tranquillement. Voilà. Vous pouvez faire les modifications, il n'y a aucun problème.
D'accord, merci beaucoup.
Par contre, si vous habitez au bord de la mer, on peut se déplacer pour vous amener les documents Word.
Je vais en Savoie aussi en hiver. Hein.
Toujours par rapport à PNB, quand vous avez beaucoup d'incidents, tel livre, ça ne marche pas sur tel support, vous vous adressez à qui, vous, quand ce que...
Alors déjà, souvent, c'est un peu l'expérience, hein, j'essaie d'identifier le problème. En général, 90% du temps, j'arrive à l'élucider moi-même. Voilà. Parce que souvent, ce sont les mêmes incidents. Bon, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui connaissent bien, bon, merci Adobe. Hein, voilà. Quand on en sera débarrassé, on sera heureux, on ouvrira champagne. Ensuite, je fais des tests. Première chose à faire, c'est le même réflexe quand vous allez en bibliothèque quand quelqu'un a un problème. Et c'est aller voir le compte de l'usager. Je comprends pas, j'ai pas mon livre. Ça arrive, hein. Oui, il n'y a rien enregistré, donc vous avez dû faire une mauvaise manipulation. Oui, le livre est bien enregistré, je l'ouvre pas. Bon, donc c'est pour ça qu'on me pose toutes ces questions. Sur quoi vous l'avez fait, quel support, quelle application, ce genre de choses. En général, ceux qui utilisent Baobab, il y a très peu de bugs. Très peu. Voilà. Donc, et quand il y a un bug qui est en lien avec Baobab, moi je fais un test moi-même, hein. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de compte Adobe et autres. Le prêt est relié au compte de l'usager. Donc, moi, je peux me connecter sur l'usager avec Baobab et regarder si j'ai bien mon livre, si j'ai pas un souci, si c'est pas une erreur de manipulation. Voilà. Pour Baobab, je les contacte directement. Voilà. On a régulièrement des... En fait, la chance qu'on a à Paris, c'est qu'en fait, du coup, souvent, on est contacté par les éditeurs de contenu qui veulent faire des tests ou travailler avec nous. Voilà. Donc, du coup, Baobab, on travaille directement avec eux. Bon, c'est Dilicom derrière, hein, donc ils voient tout. Voilà. Donc, on a des réunions toutes les 6 semaines environ, d'une heure, et on fait des échanges. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permis d'intervenir pour dire, voilà, la prochaine intégration, ce qu'ils vont faire, c'est qu'automatiquement, quand quelqu'un prend un livre audio, il pourra être téléchargé dans Baobab. Eux, ils sont prêts, c'est Archimède qui doit faire un petit travail, voilà. Donc, a priori, voilà.
Et quand on se retrouve comme nous, c'est le cas avec plein de documents qui sont inutilisables, c'est-à-dire que le jeton il est mangé.
Ah, le jeton il est mangé,
C'est sûr. Le lecteur il est pas content parce qu'il a pas eu son truc. Nous on n'arrive pas trop à identifier le problème, mais on s'est adressé à Dilicom qui nous répond que c'est parce que Adobe a mis à jour une version et en fait il faudrait la désinstaller pour revenir à l'autre version.
Oui, c'est le bug le plus fréquent.
Ouais.
Alors, regarde dans la fac, hein, j'ai mis le tutoriel complet, que ce soit avec un PC ou avec un Mac. Et on peut récupérer son emprunt.
Et il y a deux trucs, c'est que, un, pour faire des tests, comme vous dites, c'est vrai qu'on, c'est ce qu'on fait aussi, mais à chaque fois, on mange un jeton, et en fait, nous, on n'en a pas des masses, des jetons, du coup.
Non, mais je ne fais pas forcément un jeton. Hein. Moi, quand quelqu'un me dit, ouais, j'ai la version 4.5 d'Adobe, je sais que c'est ça.
Ouais.
Je ne cherche même pas, je lui dis d'essayer avec la version 3.0. Voilà.
Okay.
Et passant à la version ancienne, on règle 90% des problèmes.
C'est ça. Voilà. Après, il y a toute une gymnastique à faire. Il y a toute une gymnastique.
Dans le bon ordre.
Voilà.
Et on peut, par rapport au jeton perdu, il n'y a pas un recours à faire auprès de... Non.
Okay. Non, parce que la personne peut récupérer son emprunt. Et j'y vais plus loin, si jamais vous voulez calmer quelqu'un qui est fâché, quelqu'un qui a perdu parce qu'il veut mettre dans sa liseuse, le jeton est perdu, il n'arrive pas à mettre, il s'embrouille avec ses comptes Adobe, ça arrive. Hein. C'est terrible, les gens qui sont en couple et qui ne comprennent pas qu'ils peuvent avoir un compte Adobe pour deux, donc ils n'arrêtent pas de l'échanger, etc., ce n'est pas la peine. Mais au pire, la personne peut récupérer via Baobab sur une tablette ou un smartphone son emprunt. Parce que peu importe le compte Adobe qui a été utilisé, il n'y a pas Adobe. Voilà. Donc, regardez sur notre site, allez voir le tuto. Et vous tapez Baobab application lecture. Ils ont une chaîne sur YouTube avec un tuto en vidéo. C'est encore plus simple. Donc, non, par contre, c'est pour l'instant non. Alors par contre, là, je le dis, par exemple, j'ai été contacté par Bookin, je vais faire des tests avec eux, ils vont développer LCP sur leur nouvelle liseuse, voilà. Donc là, ils vont m'en envoyer, on va faire des tests pour voir si ça fonctionne bien, et ça sera le même principe, c'est-à-dire que la personne, elle ouvre sa liseuse, il y a un petit logiciel dedans, elle rentre son compte de bibliothèque, elle a ses bouquins, voilà. Voilà, plus d'Adobe, terminé.
Sur la Diva.
Oui, oui. En fait, ouais, c'est pas vraiment un logiciel comme Adobe ou autre. C'est vraiment par rapport à LCP qui fonctionne, spécifique aux bibliothèques, en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas un gros logiciel. Voilà. Par contre, je leur ai demandé, il ne sera pas téléchargeable sur les anciens modèles de liseuses. Mais bon, c'est voilà, c'est la première marche, on va dire. Hein. Voilà, on espère qu'après les autres vont suivre. Kobo le fait en Allemagne, donc il n'y a pas de raison que Kobo en France ne le fasse pas. Voilà.
J'avais une petite question complémentaire là, sur la version 3.0 d'Adobe. Oui. Est-ce que les systèmes d'exploitation des Mac acceptent plus vraiment cette version-là ?
Non, c'est pour ça qu'il faut aller sur la 4.0.
La 4.0 ?
La 4.0 pour...
Celle-ci n'est pas buggée ?
Ça peut arriver, c'est rare. Alors, pourquoi le bug ? Je ne sais pas, je ne suis pas informaticien.
Oui.
Ça peut arriver le bug quand genre, il y a un accent sur le titre. Je ne sais pas pourquoi il n'aime pas les accents. Voilà. Mais en général, non.
D'accord.
Voilà. Donc pareil, allez, sur le site, j'ai mis dans la fac. Hein. Vous voyez, problème téléchargement, vous avez tout en bas, il y a ce gros truc avec... Parce qu'il y a pas que il suffit pas de télécharger la version 3.0, 4.0. Hein. Il y a un petit truc à faire dans son ordinateur, un fichier à supprimer, enfin des trucs. Le compte Adobe à rentrer à nouveau. Voilà. Donc, il y a un lien direct parce que la version 4.0, pour la trouver, pour Mac, j'ai réussi à la trouver. Donc, j'ai mis le lien, en fait, il ouvre directement le téléchargement. Voilà.
Merci pour tout ça. Mais alors, j'ai encore une autre question.
C'est problématique, ça.
Mais l'autre...
C'était il y a deux semaines, j'ai un usager qui m'a dit, hein, j'ai essayé de contacter Adobe, ils m'ont répondu, on est un service gratuit, donc déjà, ne vous plaignez pas si ça ne marche pas. Voilà, pour vous dire. Ouais, bah, c'est ça, c'est Adobe.
Date d'édition des bouquins, parce que...
C'est ça.
Moi, j'ai...
En fait, c'est
aucun problème pendant c'est un tous an les, de téléchargement.
Tous les livres numériques qui sont sortis depuis 2017. Exactement. Ils ont dû changer quelque chose dans la... je sais pas, hein, il y a un codage qui s'est fait sur la DRM et qui fait que ça fait ce bug-là.
Je ne sais pas ce qu'on peut faire, en fait. Je suis un peu... d'après votre description, je suis un peu désemparé, là.
Moi,
parce que c'est vraiment à chier, quoi. Après, c'est vraiment pourri.
La seule solution, c'est que
c'est,
tout
c'est
passe
pas
par
bon, quoi. Et...
Bah oui, c'est LCP.
Oui, mais ça, je peux pas l'entendre et je peux pas le promouvoir auprès des usagers qui sont abonnés à ma médiathèque, évidemment. Je peux pas leur dire, vous aviez qu'à vous abonner à tel ou tel appareil. C'est pas audible. Ben ouais.
Quand on prend PNB, ce qui nous manque vraiment, parce qu'on nous explique, voilà, ça passe par Dilicom, ceci, mais c'est ce que vous, le travail que vous avez fait depuis des années, c'est-à-dire la technique.
C'est ça. Mais j'en ai chier.
Ça m'étonne pas, mais en fait, c'est vraiment ça qui nous manque, parce qu'il n'y a pas de formation actuellement, que ce soit CNFPT...
Je tiens à dire aussi, c'est le fait de pouvoir passer par la version 3.0 et tout changer, c'est une collègue du Canada qui a trouvé ça. Parce qu'au Canada aussi, il n'y a pas que nous, hein, ils ont eu le même problème, hein, c'est mondial. Hein. Voilà, c'est elle qui a trouvé ça, bravo à elle, hein, parce que ça résout le problème pour l'instant, temporairement, c'est une belle rustine.
Mais voilà, c'est juste pour dire qu'on a un gros besoin d'une formation technique sur tout ça, quoi, les différents appareils, et...
Oui, une formation sans doute, en tout cas un moyen d'échanger entre nous. Enfin, moi, je fais un peu le même travail au département du Pas-de-Calais. Effectivement, ce n'est pas tous les jours facile. Après, l'offre qu'on propose, on explique aux gens, bah oui, c'est compliqué avec Adobe, mais c'est gratuit et il y a toutes les nouveautés. Donc voilà. Une formation, je ne sais pas, en tout cas un moyen d'échanger entre nous, je pense que ça peut être important. Nous, depuis 10 jours, on est en panne avec les divas. Depuis hier, on a la solution. Je me dis, par exemple, peut-être qu'il y a d'autres gens dans la salle qui seraient intéressés. Donc, ça peut être ça. Et après, faire pression, avoir des moyens, effectivement, d'une manière ou d'une autre pour que les choses évoluent. LCP, c'est quand même une grosse avancée. Baobab, aussi. Donc, il y a tout ça aussi. Hein.
excusez-moi, j'avais une question en fait. Moi, je ne travaille pas du tout en médiathèque, je travaille en bibliothèque d'hôpital au GHU Paris. Et nous, on a très peu de livres électroniques, on en a un petit peu par Cairn. Et sinon, récemment, j'en ai acheté au titre, en fait, directement l'ouvrage auprès de l'éditeur avec une licence. Donc, j'y connais rien du tout sur les livres électroniques. Et c'était pour savoir si le PNB pouvait être compatible avec des bibliothèques d'hôpitaux. Enfin, je ne sais pas du tout, je ne connais pas quand... Nous, on a un groupement hospitalo-universitaire, mais notre bibliothèque n'a pas...
J'ai peut-être la réponse, parce qu'étant au ministère de la Culture et ayant travaillé avec Dilicom, en fait, Dilicom, ça a été mis en place, PNB, par le ministère de la Culture pour la lecture publique. Et pour l'instant, toutes bibliothèques hors lecture publique n'ont pas accès à PNB.
Nous, c'est la fonction publique hospitalière, donc c'est encore différent. Enfin, tout ça, c'est tout nouveau. Et... D'accord. On fait du titre à titre ou Cairn, on se débrouille, voilà, mais on commence à le développer un petit peu. Voilà.
Du coup, oui, Amiens, vous remercie aussi pour vos tutos. C'était juste pour avoir effectivement les infos au niveau statistique. Est-ce que ça fonctionne bien au niveau livre audio, bande dessinée?
Oui.
Les retours.
Oui. Alors en plus, on parlait tout à l'heure de Baobab. Baobab a fait une évolution il y a quelques mois et prend en compte l'IPDF. Vous voyez même là les tutoriels sur Aldico. D'ailleurs, je vais les retirer parce que Aldico va complètement... Déjà, c'est le cas sur iOS, mais ça va bientôt suivre sur Android. Ça ne marchera plus tel que c'est. Ils ne marcheront plus avec Adobe. Donc, ils marcheront en LCP, mais forcément pas compatible avec par exemple, Archimède. Donc, mais Baobab prend en compte les PDF et les EPUB Fixed Layout, donc la bande dessinée, ça marche très bien. Voilà. Par contre, ceux qui ont des vieilles versions d'Android, je crois que c'est en dessous de 6.0, ils ne peuvent pas télécharger la dernière version de Baobab, c'est comme pour tout. Voilà. Il y a des technologies qui sont requises et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il y avait une question. Je crois qu'il y avait une question là-haut aussi.
Oui, pardon. Une question là-haut? Je ne sais pas, j'ai le micro, j'en profite.
Profite
juste par rapport aux bibliothèques d'hôpitaux, je rejoins ce que disait notre collègue là. Ce que j'ai toujours entendu dans les négociations PNB au ministère de la Culture, c'était que c'était exclusivement pour les bibliothèques publiques et pas pour les bibliothèques d'entreprise, bibliothèques scolaires ou bibliothèques spécialisées, pour des raisons que je ne connais pas.
Je sais même que Archimède a demandé à ce que ça disparaisse parce qu'il y a même des bibliothèques universitaires qui voudraient travailler et eux ils veulent vendre.
Ils aiment bien vendre, ouais. Ils aiment bien vendre. Oui, mais le projet PNB, il est proposé par Dilicom, qui ne dépend pas du ministère de la Culture. C'est pas un projet du ministère de la Culture. Ça n'a jamais été très clair là-dessus. Ils pilotent l'évaluation, disent-ils. Donc, mais en tout cas, c'est pas ouvert aux autres bibliothèques publiques, ça c'est sûr. J'avais une petite question, peut-être pour revenir aux acquisitions de ressources numériques, parce qu'on se disait là avec Fabien que PNB, on refera une journée l'an prochain. Apparemment, il y a beaucoup de questions. Et tous les deux ans, il y en a des nouvelles. Il y a de nouveaux problèmes techniques d'Adobe. Sur le sous-critère 2, dont tout le monde se souvient pertinemment, donc la partie enrichissement de notices et la partie... Oui, c'est peut-être bien de le réafficher.
Si tout le monde s'en souvient.
Mais oui, c'est inutile, mais bon, ça ne mange pas de pain. j'avais oublié le deuxième point du sous-point. L'enrichissement des notices, parce que nous, on n'a pas trouvé un fournisseur libraire qui a un enrichissement de notices significatif. On achète les notices à Electre pour enrichir. On ne les achète pas au libraire et on n'avait pas trouvé de libraire.
Ce n'est pas forcément toutes les notices, mais par exemple, ils peuvent rajouter des coups de cœur ou des avis libraires sur la notice.
Ah, c'est ça que vous appelez enrichissement de notice, d'accord.
Voilà, c'est tout ce qui est toutes les touches personnelles apportées par le libraire sur son site.
Ok,
voilà.
C'est pas les résumés ou,
non.
Ou les vedettes matières Rameau
non,
ou d'autres.
Non, mais, d'accord. Non, par contre, certains font aussi un travail des fois de réindexation.
Ok, Parce que ça, en fait, c'est un contenu qui est proposé par Babelio, par exemple. Les commentaires, les coups de cœur,
oui,
etc.
Oui, oui, oui. Mais voilà, donc,
qui est sans doute plus riche que celui des libraires.
En gros, c'était un petit peu ce sous-critère de C.
D'accord.
Voilà, qu'est-ce que nous, on n'a pas mis dans notre CCTP, mais que vous estimez pertinent, qui pourrait être utile, ou avec lequel on pourrait travailler, que ça se fasse ou pas, okay, mais voilà.
D'accord.
Et donc, c'était à eux de le mettre.
Ça dépend du périmètre qu'on voit. Déjà,
là, d'accord. Ce que je vous dis de tête, c'est parce c'est que ça, je me rappelle que celui qui a eu le libraire qui a eu le marché avec nous,
ah oui,
en avait.
Juste pour info, pour ceux qui souhaitent, mais il faut de l'argent. Il y a moyen d'avoir des Electre a un web service qui permet d'enrichir les notices avec d'autres informations. Nous, par exemple, on enrichit avec la nationalité de l'auteur parce que nous, on a des livres belges en Belgique. J'entendais tout à l'heure que les livres belges et suisses qui étaient des espèces de gadgets dont on ne voulait pas dans l'offre. Je signale que vous n'auriez pas Amélie Nothomb dans la Belgique. Hein. Ni Simenon, ni Hergé, ni Franquin. Enfin, blague à part, on a compris l'idée. Sur l'assistance technique en cas d'erreur de distribution, oui, ça c'est super important, je trouve. Mais comment est-ce que vous pouvez vérifier les dires du soumissionnaire?
Bah, si nous les décrit, on va regarder, effectivement. Quand on fait la journée de test, on va regarder.
Ah oui, mais sauf que ce n'est pas un test in real life, c'est un test où ils vont être super répondants. Ouais.
Ce test, tu le fais pas sur les autres titres non plus. Tu le fais pas sur du Alexandre Dumas ou je ne sais quoi.
Non, c'était juste parce que c'est toujours le problème que tu soulignais, Jao, tout à l'heure, de l'engagement sur papier d'un fournisseur qui, dans les faits, enfin, j'ai quand même fait beaucoup de marchés, ne suit pas toujours ce qu'il s'était engagé à faire. Ah. Et de toute façon, il obtient le marché là-dessus, mais en fait, on vérifiera jamais et on n'a pas d'éléments pour intervenir. Ah, mais
on voit quand même le sérieux de la réponse entre un libraire qui va faire une réponse, par exemple, sur le sous-critère 1, une réponse de 10 pages avec des captures d'écran, voilà comment on gère étape par étape la commande et comment on gère les doublons. Et puis un autre libraire qui va répondre, oui, on sait faire, point.
Oui, oui, ça. Alors, c'est pour le sous-critère 1, oui. Mais je parlais du 3, l'assistance technique en cas d'erreur de distribution.
Ah oui, non, après, non, ce qu'il y a, c'est la différence, c'est, par exemple, moi, de mémoire, hein, il y en avait qui nous disaient, oui, s'il y a une erreur, vous nous contactez, on vous le résolve. Et les personnes qui vous dire que oui. Dans leur équipe, c'est telle personne qui s'en occupe avec les fonctions détaillées. Okay. Là, il y a une différence. Voilà. C'est ce genre de petits détails.
Ok, parce que nous, dans d'autres cahiers de charges techniques, on précise comment on veut des interventions. Sur tel type d'erreur, on donne tel délai, etc.
Oui,
et
on prévoit aussi, des sanctions. Là, vous n'avez pas mis le CCTP qui fait 50 pages. Mais voilà, mais en gros, tout était détaillé.
Oui, ok, détaillé. Parce que là, ça a l'air
d'être... Et j'en profite pour rebondir que...
Qu'est-ce que vous proposez,
par rapport à ce qu'est justement l'intervention de nos collègues de la BPI de ce matin, c'est l'importance, quand on écrit son marché, de travailler avec la cellule juridique. Parce que nous, on a travaillé avec eux. Il y a plein de choses auxquelles on n'aurait pas pensé, qui nous paraissent évidentes parce qu'on travaille au jour le jour comme ça. Eux, ils ne sont pas du tout du métier. Donc, et eux, ils ont l'habitude de ce genre de petits filous. Donc, ils vous disent, ça, il faut le préciser. Voilà. C'est l'importance de travailler en équipe là-dessus. Mmh. Et c'est pour ça que c'est un peu long, mais il faut le faire.
J'aimerais bien savoir qui, ici, à attaquer un fournisseur pour non-respect des clauses du marché.
Nous. Sur du marché papier. Alors, on n'a pas attaqué.
Ça m'intéresse énormément.
On ne l'a pas attaqué, mais par contre, il
m'a été convoqué. Ça m'intéresse énormément parce que toute la question de la journée est là, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
Il faut formaliser, déjà, il faut avoir été clair dans ces
critères. OK. Et bien, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-le.
Alors, on les a convoqués, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de venir à une réunion pour leur dire ça, vous ne l'avez pas respecté, ça, vous avez fait ça, ça, vous avez fait ça. Donc, c'est ou vous redressez le cap, ou c'est pénalité. Ça a été redressé.
Et donc, ça marche?
Ça a marché.
Moi, sur un
et Fred, tout à l'heure, a cité un exemple aussi.
Parce que nous, c'était juste... Donc, on a commencé les négociations où, en fait, ils ont tout de suite voulu négocier. Et moi, j'ai dit, on règle le problème, on négocie après, et ça se fera par voie d'avenant. Et donc, il y a eu un mois d'interruption, et ils nous ont fait une remise de 10%. Ouais.
Mais c'est ça, en fait, c'est que... Après, il ne faut pas non plus se brouiller avec eux. On reste en marché pendant longtemps. Ils peuvent... voilà. Mais en général... oui, ils poussent un peu le bouchon, mais quand ils sentent que là, il y a une erreur, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils rectifient de même parce qu'ils n'ont pas envie non plus de se mettre à dos. Et puis, on ne le voit pas parce qu'on est tous dans nos coins, mais on est quand même des... C'est, on est entre guillemets un réseau, tout s'évite. On sait très bien les problèmes qu'il y a que si vous travaillez avec tel prestataire, est-ce que ça va leur coûter ? Voilà. Il y a beaucoup de communes ou de départements qui travaillent hors marché avec eux. Donc si une mauvaise réputation ou une mauvaise publicité auprès d'eux, ça a des répercussions.
Après, la question, c'est aussi la responsabilité aussi des bibliothèques dans les suivis des marchés. C'est que, pas sur du numérique, mais sur des prestations d'abonnement en papier, je me souviens des collègues qui disaient « Ah, ça va pas ». Mais il est où le tableau de « tel titre arrive en retard », il est où ton mail de relance et tout ça ? Et donc, on pouvait rien faire. Sur un autre marché, on avait le tableau. Alors, c'est un tableau de suivi chiant, n'empêche qu'on a dénoncé le marché en cours de route. Voilà. Sauf que là, j'avais les éléments. C'est que c'est à nous aussi de faire le boulot et qu'il suffit pas... il vaut mieux... peu de critères, mais réalistes, bien suivis et pertinents, plutôt que de se faire plaisir avec des pages et des pages qu'en fait, on ne va pas suivre. C'est aussi quelle force de frappe on a dans le suivi derrière. Mais c'est aussi à nous de suivre le marché. Et souvent, faut pas se mentir, on dit le prestataire, ça va pas, mais enfin, il n'y a pas un mail, il n'y a pas un coup de fil.
Je vous propose de prendre une dernière question.
Moi, j'aurais juste une question sur au niveau de votre politique d'acquisition. Vous avez dit que vous excluez les exemplaires qui n'avaient pas de prêt simultané.
Oui.
Est-ce que vous avez eu des retours ou des réclamations à ce niveau ? Parce que nous, on commence et on a vu que de la jeunesse, il y avait des gros usagers. Éditeurs.
Alors, pas des éditeurs, mais des usagers. Donc, les éditeurs, pour nous, à Paris, hein, en gros, il y a un gros éditeur qui distribue beaucoup... On avait rencontré, on lui avait dit ils sont forts, hein, ils vous présentent des graphiques pour vous montrer que de payer trois fois plus cher alors que vous n'avez pas de simultanéité, c'est mieux que d'acheter trois livres papier. Donc bon, peu importe, mais on leur a dit un gamin de 6 ans, il va comprendre, c'est pas viable. Donc on leur a dit, ils s'en fichent, de toute façon ils n'aiment pas les bibliothèques. Les usagers, ils comprennent très bien. Parce qu'à partir du moment où ils trouvent pas, d'ailleurs je l'ai mis dans la fac, à partir du moment où ils ne trouvent pas un livre et qu'ils nous demandent et qu'on leur dit « Non, désolé, il est chez tel éditeur qui ne permet pas la simultanéité de titres et qui fait payer beaucoup, beaucoup trop cher », on ne les prend pas. Vous allez avoir un râleur, vous avez 10 personnes qui vont quand même penser que c'est leur sou, qui vont dire « D'accord, merci ».
Bonjour, je suis Bonjour. Béatrice de Réseau Canopée, donc je ne suis pas d'une bibliothèque de lecture publique. Et donc ma question est de savoir comment vous travaillez avec le Réseau Carrel en fait, parce qu'en fait j'ai cru comprendre que le Réseau Carrel faisait déjà un travail préalable de négociation, et dans quelle mesure vous utilisez ce travail en fait ?
Moi jusqu'à présent je ne travaillais pas avec le Réseau Carrel.
D'accord. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas entendu.
C'était mon ancien responsable qui est parti à la retraite.
D'accord. Voilà. Merci.
Donc, mais je vais aller du coup.
On était en travail avec le réseau Canopée qui a souhaité quitter l'association. Si le réseau Canopée souhaite rejoindre Réseau Carrel, ils seront les bienvenus. Voilà.
Alors, peut-être je vais laisser la... Ah, pardon. Pour PNB, la question c'était concernant PNB. Comment Carrel travaille avec PNB ou avec... Ah d'accord, alors j'avais pas compris, parce que concernant Carrel PNB, je pouvais vous répondre là-dessus, mais en fait il y a un sous-groupe du groupe de travail Livre Numérique qui travaille sur les négociations, notamment, pas que, mais notamment avec les grands groupes éditoriaux. Mais pour la BPI, pardon, c'est défaut professionnel. Pour Carrel, les collègues de Paris sont dans Carrel et quelqu'un qui est parti maintenant, mais était même au CA et même ex-président Carrel, donc ils sont très investis dans Carrel.